France Musique. Musicopolis. Le premier concerto pour violon de Chostakovitch, 7 ans de réflexion. Le 18 octobre 1955, deux musiciens font le voyage Moscou-Léningrad en train. Dimitri Chostakovitch, compositeur, et David Oistrakh, violoniste. Ils se connaissent bien, ils ont souvent travaillé ensemble. Chostakovitch habite Moscou, la capitale du RSS, mais il est né à Léningrad, alors Saint-Pétersbourg, et il a longtemps enseigné au conservatoire. C'est sa ville de cœur, à laquelle il a dédié sa 7e symphonie, créée pendant le siège en 1942. Il vient, en compagnie d'Oistrakh, apporter son premier concerto pour violon à Yevgeny Mravinsky, le chef de l'orchestre philharmonique de Léningrad. Aussitôt vu la partition du concerto pour violon, Yevgeny Mravinsky, le chef qui depuis 1937 a déjà créé 5 symphonies de Chostakovitch, met l'œuvre en répétition, avec toute la tension aux détails qu'il porte habituellement à son travail. Le 25 octobre 1955 a lieu la répétition générale. Oistrakh joue magnifiquement, tout le monde est subjugué. Après la séance, Chostakovitch retourne à son hôtel avec son ami Isaac Glickman. Il tapote rêveusement sa partition et il dit « Tout de même, je mérite un certain crédit pour ça ». La première du concerto pour violon de Chostakovitch a lieu le 29 octobre 1955. C'est un immense succès. Les interprètes doivent même rejouer le final une deuxième fois. Au cours du dîner qui suit le concert, Chostakovitch fait longuement l'éloge de son interprète, David Oistrakh. Puis il dit « Pour mon oreille de compositeur, et je répète, pour mon oreille de compositeur, il y avait des endroits dans le scherzo qui sonnaient de façon superbe. » En cela, il ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il dit seulement, franchement, son impression. Le concerto est redonné encore le lendemain et il est salué par une ovation encore plus enthousiaste. Sur le quai de la gare, alors qu'il repart pour Moscou après le concert, Chostakovitch confie à son ami Isaac Glickman « Tu sais, Oistrakh a pris quelques libertés ici et là dans le final. Quelques passages n'étaient pas exactement tels que je l'aurais souhaité. Mais même comme ça, c'était très intéressant. » Il expérimentait, et c'était encore intéressant. Quel talent! Thank you. La première du concerto pour violon de Chostakovitch a été un bon moment pour le compositeur. En 1955, sa place dans le paysage musical soviétique est bien établie. Il est le plus grand compositeur vivant. Le fait n'est plus discuté. Et surtout depuis ce jour de 1953 où sont morts à quelques heures d'intervalle Staline et Prokofiev. Néanmoins, présenter une nouvelle œuvre peut toujours être un risque pour sa sécurité. Par deux fois déjà, en 1936 et en 1948, il s'est trouvé désigné par le pouvoir comme écrivant une musique non conforme à la ligne du parti. Pour un peu, il devenait un ennemi du peuple, menacé des pires représailles. Même si, en 1955, la situation politique en URSS s'est un peu détendue pour les musiciens, on n'est jamais sûr de rien, et il faut encore faire extrêmement attention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le concerto pour violon de Chostakovitch a été créé à Leningrad, et non pas à Moscou, la capitale. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y en a quasiment aucune mention dans les journaux, en dehors d'un article en dernière page de la Sovietskaya Musika. Devant l'absence de réaction face au concerto de Chostakovitch, David Oistrakh s'est décidé à publier lui-même un article titré « Une grande pensée prend forme ». « J'ai eu l'honneur, écrit-il, d'être le premier à jouer ce concerto. Cette œuvre pose à son interprète des problèmes passionnants. Elle l'oblige à exprimer les pensées, les sentiments, les états d'âme les plus profonds avant de l'autoriser à montrer sa virtuosité. L'interprétation n'en est guère aisée. Et je me rappelle comment j'ai senti mûrir la mienne de jour en jour. Je me suis attachée progressivement à cette musique jusqu'à ce qu'elle ait pris totalement possession de moi. Plus j'étudiais le concerto avec passion, et mieux je le vivais. Thank you. Si Chostakovitch a pu créer son concerto pour violon en octobre 1955 sous le numéro d'opus 99, c'est qu'il a laissé penser qu'il avait révisé l'œuvre, achevée en 1948 sous le numéro d'opus 77. En 1948, en effet, l'œuvre n'avait pas pu passer la censure. Justement, remontons un peu le temps pour retrouver le contexte de la genèse de l'œuvre. D'abord, le contexte musical. Le désir de composer un concerto pour Oistrakh remonte sans doute à mai 1947, date à laquelle, au cours du festival d'été de Prague, Mravinsky dirige la 8e symphonie de Chostakovitch, tandis que le compositeur participe en tant que pianiste de son deuxième trio pour piano, avec Oistrakh au violon et le tchèque Miloš Sadlo au violoncelle. Chostakovitch suit Oistrakh depuis qu'il a gagné le premier prix au concours fédéral soviétique en 1935. Les deux musiciens ont aussi eu l'occasion de se connaître mieux au cours d'une tournée en Turquie d'une délégation d'artistes soviétiques. En plus, durant la saison 1946-47, Chostakovitch a pu suivre à Moscou le cycle de concerts donné par Oistrakh, le développement du concerto pour violon. Kellomäki, résidence d'été pour compositeurs sur le golfe de Finlande, à 50 km de Leningrad, Chostakovitch, comme toujours, a profité des vacances pour composer. Il a commencé le premier mouvement d'un concerto pour violon, mouvement qu'il a intitulé Nocturne. Il l'achève à Moscou le 12 novembre. Il se met ensuite au Scherzo, qui sera terminé début décembre. Scherzo de son concerto pour violon, Chostakovitch attaque le troisième mouvement, Passacaille. C'est un hiver très agréable et Chostakovitch avance bien. Cependant, des rumeurs alarmantes courent dans la capitale. Andrei Jdanov, proche de Staline, qui s'occupe des arts au bureau politique du parti, voudrait réunir le comité central pour parler de musique. Récemment, sous sa férule, des décrets ont été prononcés contre les poètes Akhmatova et Zoshchenko. Et l'inquiétude est grande parmi les musiciens. En janvier 1948, donc, alors que Shostakovich travaille à la Passaka et de son concerto, Jdanov convoque une réunion de la section moscovite de l'Union des compositeurs soviétiques. Le prétexte de cette réunion est de dénoncer l'opéra de Vano Muradeli, La Grande Amitié, qui n'a pas plu à Staline. Mais Jdanov veut aller plus loin et dresser la liste des compositeurs dont les œuvres font preuve de tendance formaliste, c'est-à-dire qui ne s'appuient pas suffisamment sur les sujets soviétiques, ni sur les mélodies populaires, ni sur l'harmonie classique, etc. Jdanov s'arrange pour que ce soit les compositeurs eux-mêmes qui établissent cette liste. Au cours des journées de réunion, dans la peur et l'angoisse, les discussions sont vives, tandis que les participants s'accusent mutuellement, dénoncent, intriguent, etc. Néanmoins, tout le monde s'accorde sur deux noms, Shostakovich et Prokofiev, les deux seuls qui ont atteint une célébrité internationale, comme c'est curieux. Tous deux incarnent ces tendances formalistes et antinationales qu'il faut dénoncer. On leur adjoint quelques autres noms, ceux de Khatchatourian, Popov, Chebaline et Miaskovski. Après la résolution du comité central, publiée le 10 février 1948 et dénonçant comme antinationaux plusieurs musiciens, dont Shostakovich, une réunion de l'Union des compositeurs est convoquée, au cours de laquelle ceux qui sont visés doivent faire amende honorable en public. Shostakovich lui-même doit se plier à l'exercice. Il reconnaît qu'à chaque fois que le parti est intervenu dans les affaires artistiques, l'art soviétique en a bénéficié. Il affirme que depuis les critiques qui lui ont été faites en 1936 sur son opéra Lady Macbeth, sa musique a évolué dans une direction différente et meilleure. Mais il se rend compte que récemment, il a à nouveau écrit dans un langage formaliste incompréhensible pour les masses. Il s'engage à composer dorénavant des œuvres compréhensibles, notamment des chansons pour le peuple soviétique, et il recommande vivement à ses collègues d'en faire autant. Thank you. Après sa confession publique devant l'Union des compositeurs soviétiques, Chostakovitch poursuit l'écriture de son concerto comme si de rien n'était. La passacaille ne s'interrompt pas. Même si Chostakovitch était capable de dire exactement à quelle double croche du violon il en était arrivé lorsque la résolution de Jdanov avait été publiée. Il a fait bonne figure pendant toute cette période, alors même que pendant quelques jours, il n'a pas été loin de songer au suicide. Une fois l'œuvre terminée, il la joue à ses élèves qui sont enthousiasmés. Il la joue aussi à Oistrakh, impressionné d'entendre comment sur le piano, Chostakovitch arrive à rendre chaque nuance, chaque phrasé, chaque articulation sans perdre une seule note. De son côté, Chostakovitch est étonné lorsqu'Oistrakh lui affirme que tout est jouable et qu'il n'y a rien à corriger. Malgré tout, dans la conjoncture politique, il est hors de question de créer l'œuvre en public. Il faut la ranger dans un tiroir, la mettre au placard en attendant, peut-être, des jours meilleurs. Sept ans après l'achèvement du concerto pour violon, deux ans après la mort de Staline, enfin, donc, l'œuvre peut être entendue en public. Chostakovitch a changé le numéro d'opus, mais il n'a pas changé une seule note. Ou plutôt si, à la demande d'Oistrakh, qui lui faisait remarquer qu'après la cadence en fin de troisième mouvement, le violoniste n'avait pas une seule seconde pour respirer, Chostakovitch a réécrit pour l'orchestre la première phrase du final, intitulée « Burlesque », de manière à donner quelques mesures de répit au violon. À peine quelques semaines après la création, Oistrakh s'est envolé pour New York pour jouer le concerto sous la direction de Dimitri Mitropoulos au Carnegie Hall. C'est grâce à l'immense succès du concert et au battage médiatique états-unien autour de l'œuvre que finalement, on allait enfin pouvoir l'entendre à Moscou. Burlesque, le final du concerto pour violon opus 77 de Dimitri Chostakovitch, David Oistrakh au violon avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Dimitri Mitropoulos, enregistré en janvier 1956. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Cédric Chatelus pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.